Jean-Claude Coulet, donc, qui est chercheur associé au CRPCC, Centre de recherche en psychologie, cognition et communication de l'Université Rennes 2, et également à l'Open Lab Exploration et Innovation à l'Université d'Auvergne. Donc, chercheur associé parce que... retraité. Voilà. Et la conférence qu'il va donner, donc, c'est la construction d'une compétence collective, donc on entend une résonance avec l'intervention de Marianne, un enjeu pédagogique et institutionnel.
Bien, bonjour à tous. Oui, alors juste une petite rectification parce que les institutions évoluent et donc quand j'avais donné mon appartenance au CRPCC, c'était encore le CRPCC, maintenant c'est le LP3C, le laboratoire de psychologie, cognition, communication et comportement de l'Université Rennes 2. Et j'étais effectivement enseignant et responsable de Master Pro à Rennes 2 du temps où j'étais en activité. Alors j'ai intitulé cette conférence effectivement « Construction d'une compétence collective, un enjeu pédagogique et institutionnel » pour essayer de montrer que la question des compétences individuelles et collectives doivent être posées simultanément et je vais proposer un certain nombre de choses qui permettent de comprendre pourquoi je défends ce point de vue. Alors en termes d'objectifs, il s'agit bien effectivement pour moi de mettre... En œuvre la pédagogie, mettre en œuvre des pratiques pédagogiques qui soient à la fois cohérentes sur le plan pédagogique et institutionnel. Et pour développer mon propos, j'aborderai trois points. Donc je ferai une analyse rapide, critique de l'organisation des pratiques ordinaires à l'université. Ensuite, j'aborderai la question des processus en jeu d'un point de vue théorique et puis ensuite j'essaierai de montrer comment on peut trouver des opérationnalisations. Je ne donnerai que quelques exemples, mais à travers ce que j'ai entendu à la fois dans ce qui a été dit dans les groupes ce matin et puis dans la conférence précédente, je pense qu'il y a plein de pistes encore que je pourrais essayer d'exploiter. Alors la première partie... concernant l'analyse critique des pratiques ordinaires à l'université, bien sûr, il s'agit de l'approche cours dans laquelle on a des objectifs généraux qui, en général, sont fixés par la gouvernance. Ensuite, des enseignements qui sont plus juxtaposés que coordonnés, avec des objectifs surtout qui sont parfois très spécifiques aux différents enseignants ou aux différents enseignements et qui sont relativement hétérogènes les uns par rapport aux autres. Et bien sûr, tout ça relève d'une conception sous-jacente qui a été rappelée tout à l'heure par Marianne Frenet, c'est-à-dire qu'en fait, on a des savoirs académiques qui sont perçus comme étant à transmettre, un enseignant qui est chargé de cette transmission, des apprenants qui sont, à partir de là, chargés de construire des connaissances. Et évidemment, au vu des connaissances qui ont été construites, l'université peut délivrer un diplôme. Bien entendu, quand on regarde la manière concrète dont ça se passe à l'université, on voit bien qu'on a un ensemble de dispositions qui font l'histoire de l'université, par exemple, tout ce qui est de l'ordre, de la valorisation du CM par rapport au TD ou au TP, notamment du point de vue de la rémunération que ça suppose pour l'enseignant. On voit bien également qu'on valorise pour des raisons économiques souvent les troncs communs qui consistent à mettre des étudiants qui appartiennent à différentes formations, on vient de l'évoquer dans la question précédente, qui consiste à mettre des étudiants qui appartiennent à des formations complètement différentes dans un cours commun parce qu'on considère que ça peut constituer un tronc commun des deux formations. Bien sûr, on voit bien que ce type de dispositif renforce fortement la pédagogie traditionnelle, au détriment, évidemment, des pédagogies actives qu'on suppose pouvoir mettre en place, notamment à travers une approche par compétences. Le formatage semestriel, de la même façon que la gestion des diplômes, conditionne également des modalités d'évaluation qui ne sont pas nécessairement des plus pertinentes pour pouvoir arriver à évaluer les compétences. Et la plupart du temps, on est amené à évaluer des performances, notamment à travers des notes. Et le système Apogée est l'exemple typique d'un artefact qui formate les activités des universitaires, alors qu'on pourrait imaginer l'inverse, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que le logiciel soit formaté pour permettre de constituer un véritable moyen au service des activités pédagogiques. Donc on a tout un tas de dispositifs, je pense qu'on pourrait en trouver certainement d'autres. On a tout un tas de dispositifs qui sont à l'origine des pratiques actuelles et qui font qu'on a, par exemple, ici, de nombreux enseignements magistraux, des évaluations de type contrôle de connaissances et des diplômes obtenus à partir des moyennes de notes. Évidemment, ces moyennes de notes posent un certain nombre de problèmes dans le sens où elles sont très éloignées de l'idée qu'on peut se faire de ce que sont les compétences construites par les étudiants. Et on en arrive même à des systèmes du type compensation ou encore du type validation de compétences extracurriculaires en ajoutant 0,5 points, par exemple, à la moyenne générale, ce qui n'a évidemment aucun sens pour délivrer un diplôme de biologie végétale ou je ne sais quoi encore. Bref, on est dans ce système-là. Et par ailleurs, on vise une demande qui est orientée par des approches programmes et par compétences, qui, elle, nécessite de décrire les compétences visées, de concevoir des dispositifs d'évaluation et des dispositifs pédagogiques adaptés, et d'outiller notamment l'appropriation par les étudiants des compétences qu'ils ont construites. Évidemment, on n'est pas tout à fait sur le même plan. Et ça nécessite également une dynamique alternative de l'institution que de se placer dans cette situation-là. On est donc dans une situation qu'on peut véritablement qualifier de cette manière-là en disant on est dans une injonction paradoxale parce que tout est fait pour une pédagogie traditionnelle avec des évaluations de performance sous la forme de notes et peu de choses sont faites pour effectivement servir une approche par compétence et une approche programme. Donc j'en viens tout de suite à la deuxième partie qui consiste à dire bon, est-ce que on peut essayer de voir comment créer une dynamique institutionnelle alternative. Alors d'un point de vue théorique, je propose un modèle de la compétence qui est un modèle de la compétence qui peut permettre de décrire ce qu'est une compétence individuelle, mais également une compétence collective. Ce modèle de la compétence, il est fondé sur l'idée que les activités humaines sont organisées et elles sont organisées par ce qu'on peut repérer à la suite d'auteurs comme Piaget ou Vergniaud comme étant une organisation de l'activité pour une classe de situation. Autrement dit, ce repérage de l'organisation de l'activité permet de dire il y a bien sûr quelque chose qui est déjà là au moment où on s'engage dans une activité, c'est ce qui a déjà été construit, et on peut remonter aux étapes initiales du développement pour dire même le bébé qui vient de naître est doué d'un certain nombre de caractéristiques de son activité qui permet effectivement de réaliser d'autres activités et de construire à partir de là des systèmes beaucoup plus complexes de schèmes, hein, puisqu'on peut les désigner par ce terme-là. Ensuite, la deuxième idée qui me semble extrêmement importante, c'est de considérer que toute activité humaine est nécessairement triplement orientée, à la fois vers la tâche qu'on traite avec cette activité, mais également dans un rapport à autrui, que ce soit les gens qui sont autour de nous quand on réalise cette activité, ou que ce soit les gens imaginaires qu'on a encore dans notre tête au moment où on agit. Et puis, la relation à soi, évidemment, ces deux aspects, relation à autrui et relation à soi, sont en général fortement liés l'un à l'autre. Alors, j'insiste sur ces deux derniers aspects parce que, en général, quand on construit des référentiels de compétences, on évacue assez facilement ces deux dimensions qui, pourtant, sont extrêmement importantes, notamment quand on veut former, comme on l'a évoqué tout à l'heure, des attitudes, qu'on veut faire en sorte que les étudiants disposent de valeurs, etc. Ce sont des dimensions qui sont extrêmement importantes, ou si on veut répondre d'une façon particulière, cette façon particulière-là, si on veut répondre à des injonctions, par exemple, telles que celles qu'on a avec les référentiels de compétences, celles qui sont produites par le ministère, qui proposent la construction de compétences dites transversales, avec savoir travailler en groupe, etc. Enfin, moi, je suis très réservé par rapport à cette terminologie-là, mais il n'empêche que ça recouvre notamment des aspects qu'on peut retrouver sur ces deux dimensions-là. Alors, la compétence, une activité individuelle et collective pour traiter une tâche donnée dans une situation déterminée via des artefacts, c'est-à-dire des outils matériels ou symboliques que l'on mobilise pour agir. Et la compétence, ça ne s'arrête pas là, alors qu'habituellement, on considère que quand on a dit ça, on a dit l'essentiel. Eh bien non, je pense qu'on n'a pas dit l'essentiel parce qu'il manque l'autre dimension qui est celle de l'activité qu'on pourrait qualifier de constructive, c'est-à-dire celle qui relève des régulations qu'on met en œuvre chaque fois qu'on agit. En fonction des résultats qu'on a obtenus, eh bien, on est amené à réguler son activité. Cette façon de poser les choses conduit à considérer donc, et c'est un parti pris théorique, on peut dire, ça consiste donc à considérer que la compétence, c'est à la fois un potentiel, c'est-à-dire quelque chose qui est déjà là, qui a déjà été construit, et en même temps, une activité située parce que en permanence, on est amené à ajuster son activité en fonction notamment d'un certain nombre de choses, et je vais revenir là-dessus, en présentant la diapo suivante qui permet de comprendre comment une activité productive d'un résultat via des artefacts est mobilisée d'une part et régulée d'autre part. Alors, elle est mobilisée à partir de quatre ingrédients qui sont fondamentaux et qu'on trouve dans toute activité, à partir d'anticipations. Que sont les anticipations ? Eh bien, ce sont les résultats que l'on attend de son activité lorsqu'on met en place une activité. Mais ce sont aussi des règles d'action dans le sens où, pour produire ces résultats, il va falloir organiser un certain nombre d'opérations en succession, en parallèle, etc., de telle sorte que l'activité globale puisse donner effectivement les résultats que l'on escompte. Ça suppose également un certain nombre d'inférences, c'est-à-dire d'ajustements de l'organisation de l'activité valable pour une classe de situation à la situation ici et maintenant telle que je la rencontre. Donc il y a bien cette idée d'activité située. La compétence tient compte nécessairement des situations dans lesquelles elle se met en place. Et enfin, des invariants opératoires. J'ai gardé ce terme volontairement pour rester fidèle aux auteurs qui ont inspiré ce modèle. Des invariants opératoires qui ne sont rien d'autre que des éléments que l'on tient pour vrais, d'une part, les théorèmes en acte, et des éléments que l'on tient pour pertinents, d'autre part, qui sont des éléments que l'on considère au regard de l'activité dans laquelle on est engagé comme étant particulièrement pertinent à prendre en compte. Je prends toujours l'exemple de l'enseignant qui n'a rien à faire de la couleur des murs, mais par contre, il a à faire des regards qui lui sont portés, des froncements de sourcils, etc. Donc tout un tas d'éléments qui, pour lui, dans son activité d'enseignement, sont pertinents par rapport à d'autres qui ne le sont pas. On pourrait dire que c'est une espèce de réalité augmentée. Ces éléments-là sont donc organisateurs de l'activité, de la mobilisation de l'activité en situation. Et ensuite, une fois qu'on a obtenu des résultats, eh bien, on est amené à réguler son activité et on peut le faire de trois manières, c'est-à-dire considérer que les règles d'action qu'on a mobilisées, c'est-à-dire cette organisation des opérations pour faire, n'est pas correcte et qu'on peut en changer facilement, ou bien considérer que les invariants opératoires, c'est-à-dire les formes de conceptualisation qu'on a mobilisées, ce que l'on tient pour vrai ou ce que l'on tient pour pertinent, n'est pas pertinent au regard des résultats qu'on a obtenus, ou bien considérer tout simplement que l'activité elle-même, dans sa globalité, n'est pas la plus adaptée par rapport à la tâche que l'on a à traiter, et par conséquent, on peut changer d'activité au regard du fait qu'en général, on a à disposition différentes organisations de l'activité qui permet de faire face à des situations. Alors, je n'insiste pas plus là-dessus, si ce n'est pour dire que c'est bien une activité située dans la mesure où les trois flèches numérotées renvoient à l'idée d'ajustement de la compétence en situation, donc en fonction des caractéristiques de la situation, en fonction des propriétés des artefacts que l'on utilise pour agir et en fonction des résultats que l'on a obtenus. Alors, si on s'intéresse maintenant, et c'est le centre du propos, à la dynamique institutionnelle, eh bien, il me semble qu'on peut faire un détour heureux du côté des sciences de gestion, dans la mesure où les sciences de gestion se sont intéressées depuis longtemps à la manière dont on pouvait formaliser le fonctionnement des institutions, des organisations, et ils l'ont fait notamment avec des modèles que je résume ici, qui sont très critiquables de mon point de vue, c'est-à-dire des modèles qui sont issus du traitement de l'information, des théories du traitement de l'information, et où on a un arrière-plan systématiquement des modèles qui sont proposés, qui consiste à considérer qu'on a affaire à des données d'entrée qui sont traitées au sein de l'organisation et qui donnent des données de sortie. Et on voit bien en dessous l'idée qu'on retrouve dans certaines définitions de la compétence individuelle, cette fois, avec l'idée de ressources internes et externes qui, combinées, permettent de produire une performance. Et on est longtemps resté en sciences de gestion sur des modèles de ce type-là. Il me semble qu'il y a un modèle qui tranche assez radicalement avec ça. C'est le modèle qui a été proposé par Nonaka et Takeshi. Par Nonaka essentiellement, mais il y a un ouvrage de Nonaka et Takeshi publié en 1995 qui en rend bien compte, qui me paraît être un ouvrage suffisamment important pour considérer que ce qu'il fait, c'est tout simplement poser un modèle qui articule ce qui est de l'ordre de l'ontogenèse, c'est-à-dire de la genèse individuelle, et ce qui est de l'ordre de la sociogenèse, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre de la genèse des sociétés, parce que ce modèle-là permet de rendre compte de différents niveaux dans les organisations, différents niveaux de changement dans les organisations. Alors, je vous présente rapidement ce modèle-là, qui est fondé sur une différence fondamentale entre des connaissances tacites, c'est-à-dire celles qui sont incorporées, et des connaissances explicites qui sont véhiculées dans l'interaction sociale. Alors, l'idée, c'est de dire, on a un premier niveau qui est un niveau de socialisation où, parce qu'il existe des interactions entre les individus, ils vont échanger un certain nombre de connaissances tacites qu'ils vont ensuite, parce que ils utilisent des systèmes symboliques, ils vont pouvoir les expliciter au niveau de l'extériorisation. Ensuite, ils vont pouvoir les formaliser. Marianne Frenet tout à l'heure disait il faut documenter ce qu'on fait, et ça relève bien de cette logique-là, dans le sens où, effectivement, on tire les leçons de tout ce qu'on a mis sur la table de façon plus ou moins formelle au niveau précédent de l'extériorisation. On combine et de là, on tire des savoirs, on pourrait dire, plus généraux qui constituent ces connaissances explicites au niveau organisationnel. Et évidemment, le quatrième niveau, c'est l'appropriation par les individus dans leur activité de ces connaissances explicitées au niveau de l'organisation et qui vont devenir tacites pour eux dans la mesure où elles vont être complètement réincorporées dans leur activité propre. Et on a affaire en quelque sorte à une espèce de spirale de transformation qui va se mettre en place avec des transformations que Nonaka qualifie de conversion de connaissances. Et je pense qu'il a tout à fait raison d'insister sur ce terme de conversion, parce que quand on passe d'un niveau à l'autre, on change radicalement de la nature des éléments auxquels on fait référence. Et ce sont des changements qui sont vraiment des changements qui ne sont pas en continuité les uns avec les autres, mais qui sont vraiment en rupture les uns avec les autres, voire en opposition rupture. Et donc cette façon de poser les choses peut être, me semble-t-il, décrite comme, alors ça c'est une interprétation évidemment, mais comme étant quelque chose qui relève de la participation à des pratiques sociales, la participation à des échanges symboliques, une formalisation collective de l'expérience et des apprentissages en lien avec l'activité. Et si on prend au pied de la lettre ce modèle-là, on voit bien qu'il concerne uniquement ce qui est appelé des connaissances, mais quand on regarde dans le texte ce qu'écrit Nonaka, on se rend compte que ces connaissances ressemblent étrangement à des compétences. Et donc je propose de reprendre ce modèle-là en considérant que c'est un modèle qui a été conçu pour rendre compte des innovations, notamment dans les entreprises japonaises, et en particulier l'entreprise Toyota, qui a toujours été prise en référence de ce point de vue. Et ce modèle-là est un modèle qui, de mon point de vue, est une organisation de compétences avec quatre niveaux. Donc, un niveau de socialisation qui correspond à quelque chose qu'on pourrait appeler une percolation de compétences, parce que les gens sont en situation d'observer plus ou moins les compétences qui sont mobilisées par d'autres, eh bien, ils socialisent leur propre activité et donc il y a des échanges de compétences qui se font sans même qu'on ait besoin de parler. Ça me paraît extrêmement important. Ça se fait simplement au niveau de l'observation des conduites d'autrui. Le deuxième niveau d'extériorisation est celui d'une explicitation des compétences, notamment dans des situations formelles, mais ça peut être des situations informelles. Marianne Frenet faisait allusion tout à l'heure à ces discussions de couloir ou autour du café qui sont extrêmement importantes parce que les gens discutent effectivement là de leurs compétences, sans tabou en plus. Et donc, il y a des choses qui se construisent là du point de vue de l'échange qui est permis, je dirais, par l'utilisation de systèmes symboliques qui permettent de formaliser, d'échanger. C'est l'utilisation, par exemple, de la double fonction du langage. Le langage est à la fois un outil de représentation et un outil de communication. Et quand on communique, on représente. Et donc, du coup, on peut améliorer un certain nombre de choses de ce que sont les compétences tacites. Troisième niveau, la combinaison. Là, il y a une formalisation des compétences qui concernent cette fois l'organisation dans sa globalité. C'est la documentation dont on parlait tout à l'heure. Et puis, quatrième niveau, l'intériorisation avec quelque chose qui est de l'ordre de l'appropriation de compétences. Et si on regarde les travaux en psychologie, et en particulier en psychologie du développement, on peut se rendre compte qu'à chacun de ces niveaux, il est possible de repérer des processus qui correspondent à ce qui se passe effectivement en termes d'apprentissage. Donc, au niveau de la percolation, j'ai déjà utilisé le terme d'apprentissage par observation, mais on a aussi de l'apprentissage implicite. Et ce qui est en jeu essentiellement là derrière, c'est l'idée que les êtres vivants et les humains en particulier sont certainement capables de repérer les régularités de leur environnement. Et repérer les régularités de l'environnement, ça permet effectivement d'apprendre par observation par rapport aux régularités observées. Au deuxième niveau, on a quelque chose qui a été largement décrit par Piaget en termes de prise de conscience et par un certain nombre de chercheurs qui ont prolongé son travail sur les apprentissages socio-cognitifs avec l'idée que on peut confronter des points de vue différents et du coup apprendre de l'autre à travers cette confrontation de points de vue. Ou alors, on peut tout simplement, parce qu'on utilise cet artefact langage ou système symbolique d'une façon générale, prendre conscience d'éléments dont on n'avait pas conscience. Et là aussi, hein, on faisait référence à des prises de conscience dès lors que les responsables de programme se mettent à parler de ce qu'est leur expérience, ils découvrent des éléments qui constituent les compétences qu'ils ont mobilisées sans qu'ils aient eu jusque-là la possibilité de le faire véritablement. Tout ça a été incorporé et ils peuvent effectivement en prendre conscience à ce niveau-là. Troisième niveau, on pourrait dire que cette formalisation des compétences relève d'un processus que Piaget a décrit en termes d'abstraction réfléchie. Alors là, c'est évidemment appliqué au collectif, donc c'est une trahison complète de Piaget. Mais pour autant, je pense que ce à quoi on a affaire relève bien de cette logique, c'est-à-dire qu'on travaille sur les formalisations qui ont été faites au niveau précédent et on les enrichit dans le sens où on leur ajoute du consensus qui accrédite en quelque sorte ce qui a été construit. Et bien sûr, si on considère que la compétence collective, on peut la formaliser comme je l'ai présenté tout à l'heure, alors on peut dire qu'à ce niveau-là, il y a certainement des régulations de cette activité collective qui consistent à revenir sur des règles d'action, à revenir sur des procédures, à revenir sur des conceptualisations qui pilotent l'activité de l'organisation tout entière. Et enfin, au quatrième niveau, on a quelque chose qu'on pourrait repérer comme étant de l'ordre de l'équilibration, au sens piagétien du terme, c'est-à-dire d'adaptation de l'individu aux contraintes ou aux perturbations qu'il rencontre dans son environnement. Et d'autre part, on pourrait dire, en suivant par exemple Rabardel que citait Catherine Oulazi tout à l'heure dans son intervention, c'est tout simplement ce qui est de l'ordre de l'instrumentation de Schem, c'est-à-dire que le fait d'utiliser des outils qui ont certaines propriétés va transformer notre organisation de l'activité, va transformer nos Schem que l'on utilise. Et c'est bien ce qui se passe lorsque on prend en compte un certain nombre de contraintes institutionnelles pour pouvoir adapter individuellement son fonctionnement. C'est aussi une façon de dire on transforme des contraintes en opportunités par rapport à sa propre activité. Donc il y a bien la possibilité de décrire derrière ces organisations des processus que l'on peut avoir en tête lorsqu'on travaille au niveau, par exemple, de l'université pour concevoir ce qu'est l'activité de l'université dans sa globalité. Eh bien, on peut dire que c'est une activité de type former des étudiants et que cette activité-là, on peut en rendre compte par un modèle du type de celui que j'ai présenté tout à l'heure. Mais évidemment, c'est former des étudiants dans une dynamique organisationnelle et cette fois, on peut en rendre compte de cette manière-là. Donc voilà deux modèles qui devraient pouvoir permettre de conceptualiser ce qui se joue dans l'organisation des activités d'enseignement au niveau institutionnel. Troisième partie, des pratiques à mettre en œuvre. Alors, je reprends ici le modèle spiralaire que je viens de présenter pour essayer de montrer comment ça peut donner lieu à un certain nombre de principes, d'une part, et je vais essayer de donner quelques exemples d'autre part. Alors, ici, le principe de la percolation de compétences, eh bien, c'est un principe qui consiste à rendre visibles les activités concernées. Alors, par exemple, aménager des espaces de visibilité des activités individuelles concernées. Si on vise l'activité des enseignants, par exemple, est-ce qu'on a à l'université suffisamment de lieux où sont rendues visibles les pratiques des collègues ? Ben, probablement pas, parce que souvent, on a peu de co-intervention et on a peu d'éléments qui sont, par exemple, des vidéos qui permettent de rendre compte de ces activités-là. Donc, proposer des vidéos relatives aux activités individuelles concernées, favoriser les occasions de coopération interindividuelle sur les activités concernées, c'est-à-dire qu'installer des machines à café, c'est peut-être pas si idiot que ça, parce que ça permet probablement des échanges informels qui n'ont pas lieu si ces machines à café n'existent pas. Bref, l'etc. montre bien qu'on est très loin d'avoir fait le tour exhaustif de tout ce qu'on pourrait imaginer sur le principe rendre visibles les activités d'autrui, de telle sorte que ça percole sans qu'on ait simplement même l'impression et le sentiment qu'on est en train d'apprendre des choses et pourtant on apprend. La plupart des compétences qu'on a construites relèvent effectivement d'une logique de ce type-là. Alors, par exemple, je vais rapporter simplement une expérience que j'ai vécue dans le cadre du Master Pro que je dirigeais et dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce Master Pro était intitulé « Ingénierie psychosociale et cognitive ». Évidemment, à l'époque, quand il a été créé en 90, il faisait un peu tâche à l'université parce qu'on avait l'habitude de DESS, à l'époque c'était des DESS, qui étaient des DESS de type métier et où l'idée était de former des étudiants à un métier bien spécifique. Là, la philosophie était différente, c'était l'idée de former des étudiants en psycho qui devaient être des ingénieurs de la psychologie, hein, c'est-à-dire qui devaient être capables de répondre à des demandes diverses et variées dans le monde social par rapport à ce qu'ils avaient construit, eux, en termes de spécificité, donc être capable de mobiliser des concepts, des méthodes, des techniques issues de la psychologie pour résoudre des problèmes qui se posent sur le terrain. La manière de réaliser les objectifs de cette formation était de proposer aux étudiants de réaliser en binôme une véritable mission qu'on négociait auprès d'un commanditaire pour eux, et ils avaient à la conduire avec donc le commanditaire comme tuteur de terrain et un universitaire comme tuteur universitaire pour encadrer tout ça. Et ce qu'on faisait régulièrement, tous les mois je crois, c'était un séminaire mission où chaque binôme venait présenter l'état d'avancement de sa mission. Et où il présentait l'état d'avancement de sa mission devant l'ensemble de l'équipe des enseignants du diplôme. Eh bien, je peux vous dire que c'est une situation d'apprentissage absolument extraordinaire pour tout le monde, à la fois pour les enseignants qui sont confrontés aux remarques qui sont produites par leurs collègues sur la base de leur spécificité, c'est-à-dire que le collègue de psychosocial, par exemple, eh bien, il dit des trucs par rapport à sa discipline d'origine. Le collègue de psychologie cognitive, lui aussi, et ainsi de suite. Et donc là, on échange des quantités de choses autour d'un projet qui est commun, c'est-à-dire faire en sorte que les étudiants qui sont en train de présenter apprennent quelque chose du point de vue de la manière dont ils doivent présenter, déjà, et aussi du point de vue de la manière dont ils doivent conduire leur mission sur le terrain. Les commanditaires eux-mêmes apprennent à travers ça parce que entre le moment où l'étudiant part avant le séminaire mission avec une mission qui est dans un certain état et où il revient avec une mission qui est dans un état différent, évidemment, sans même qu'ils aient besoin d'exposer grand-chose, le commanditaire comprend comment les choses évoluent et comprend en même temps l'intérêt notamment d'utiliser des modèles pour pouvoir agir en situation. Les modalités d'évaluation, je dis un mot là-dessus parce que ça me paraît important par rapport aux questions qui ont été posées sur l'évaluation. On n'avait plus de contrôle sur table. Quatre modalités d'évaluation. Un dossier en contrainte temporelle. Le lundi matin à 8h, 150 pages étaient distribuées. Et la consigne, c'était rendre un document de 20 pages dactylographié vendredi à 17h. Vous vous y prenez comme vous voulez, vous coopérez avec qui vous voulez, vous avez tous les documents que vous souhaitez à disposition. Ce qui est imposé, c'est la réponse aux quatre questions qui sont posées. Donc, on posait quatre questions qui consistaient à vérifier que les informations avaient bien été lues. Donc c'était une question sur les informations qui étaient contenues dans le dossier. Ensuite, il s'agissait de montrer en quoi, en tant que psycho, ils étaient capables de répondre à des questionnements qui se posaient relativement au dossier. Deuxième épreuve, c'était une épreuve de monographie par rapport à l'organisation qui accueillait leur mission, essayer de comprendre quel était le contexte dans lequel ils inscrivaient leur activité, c'est-à-dire comprendre le rapport qu'il y avait entre l'activité qu'ils conduisaient et la situation dans laquelle elle se positionnait. Troisième modalité d'évaluation, c'était un rapport d'activité. Et puis je suis en train d'oublier le quatrième, enfin bon, peu importe, c'était du même ordre, c'est-à-dire qu'effectivement, c'était des modalités d'évaluation qui étaient directement en lien avec la compétence qu'on visait pour eux, et ces évaluations étaient toujours des évaluations collectives par un jury, hein, puisque le rapport de 20 pages sur le dossier en contrainte temporelle, la quatrième, c'est le rapport de mission, bien sûr, le rapport de mission, tout ça a été examiné en jury, et au bout du compte, la question qu'on se posait, c'était de savoir si, oui ou non, au regard de l'ensemble des évaluations, il était possible de confier des tâches professionnelles de type ingénierie psychologique à ces étudiants. Alors, par rapport au dispositif universitaire, évidemment, le responsable de formation se livrait à tout un tas de calculs savants pour faire en sorte que tout ça puisse entrer dans les cadres de l'université. On y arrivait, mais en trichant, évidemment, parce que c'était difficile de faire autrement. Deuxième niveau, l'explicitation des compétences. Donc, le principe, c'est favoriser les échanges informels, favoriser les communautés de pratique. Ça me paraît extrêmement important, c'est-à-dire que faire en sorte que dans tous les coins de l'institution, il y ait des communautés de pratique, de gens qui se retrouvent sur des tâches qui sont similaires, puissent échanger pour construire, pour co-construire par rapport à ces tâches, favoriser les formalisations des pratiques individuelles ou collectives. Bien sûr, voilà tout un tas d'éléments qui relèvent de ce principe d'explicitation des compétences. Il y a certainement plein de choses à inventer autour de ça. Et là, je pense que les groupes sont... la production des groupes sont beaucoup plus efficientes que l'imagination d'un individu qui se dit « Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça ?» Exemple, construire un référentiel de compétences, ou plutôt co-construire un référentiel de compétences. Voilà quelque chose qui me paraît extrêmement formateur pour justement faire émerger des compétences qui sont implicites et qu'on peut expliciter à partir de là, avec l'idée que ce qu'on produit n'est pas aggravé dans le marbre, mais quelque chose qui sert effectivement de référence à un moment donné, qu'on va pouvoir consulter si on en a besoin et qu'on va surtout pouvoir faire évoluer au fur et à mesure qu'on avance sur ce que sont les compétences. On peut, pour ce faire, utiliser le modèle que j'ai présenté tout à l'heure. Je l'indique tout simplement. Hein, on retrouve dans la colonne les différents ingrédients que j'ai présentés tout à l'heure. Hein, tout ce qui est de l'ordre des anticipations, des règles d'action, des inférences, des invariants opératoires, des artefacts, des feedbacks. Bref, on a là tout un tas d'entrées qui permettent de se dire, ben, en termes de compétences, qu'est-ce que ça donne ? Alors, j'en profite pour faire une petite remarque sur une erreur qu'on fait classiquement, c'est qu'on ne distingue pas en général ce qui est de l'ordre d'un référentiel de tâches et ce qui est de l'ordre d'un référentiel de compétences. De mon point de vue, les référentiels qui sont produits par le ministère ne sont pas autre chose que des référentiels de tâches, c'est-à-dire qu'ils disent ce qu'il y a à faire, mais ils ne disent rien de ce qui permet de faire, c'est-à-dire des compétences qu'il faut effectivement mobiliser pour faire. Et les compétences qu'il faut effectivement mobiliser pour faire, on peut essayer de les expliciter en travaillant à partir d'un modèle qui permet effectivement de s'interroger sur les différentes dimensions de l'activité. Alors évidemment, quand on regarde ça, on peut se dire c'est extrêmement fastidieux, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, si on doit décrire toutes les compétences de cette manière-là, c'est peut-être fastidieux, mais en tout cas, on peut les situer à un niveau de description suffisamment général pour que ce le soit moins. Hein, on a parlé tout à l'heure de 5 compétences, je crois, qui étaient repérées par les responsables pédagogiques, bien 5 compétences, voilà, ça vaut le coup sur 5 compétences de se livrer un exercice de ce type parce que, évidemment, on peut avancer sur des points qui sont a priori peu formulés dans des verbalisations spontanées. Et bien évidemment, on peut faire ça à la fois pour des compétences individuelles, mais on peut faire ça aussi pour des compétences collectives. Alors, ça peut concerner les compétences des étudiants, mais ça peut concerner les compétences des enseignants, celles des conseillers pédagogiques, ou ça peut permettre également de fournir un outil pour construire des portfolios par les étudiants, de telle sorte qu'ils puissent, à travers des questionnements du type de ceux que propose le modèle, s'interroger sur les compétences qu'ils ont effectivement construites. Troisième niveau, la formalisation de compétences au niveau de l'institution. Élaborer des référentiels institutionnels, c'est-à-dire qu'effectivement, une fois qu'on a suffisamment travaillé au niveau précédent, on peut formaliser un niveau institutionnel dans le sens où on peut donner des directives. Faire de la prospective, alors faire de la prospective, je vais en dire 2 mots, hein, c'est comment est-ce qu'on peut réguler ou envisager de réguler l'activité de l'organisation dans le temps. Produire de la littérature, on l'a dit, hein, proposer des prescriptions, parce que évidemment, dans une institution, en général, une fois qu'on a formalisé des choses, ça suppose qu'on prescrive un certain nombre de tâches, au moins, sinon de conduite à tenir. Alors, faire de la prospective, eh bien, on peut le faire en considérant que l'activité collective, si on la décrit de cette manière-là, faire de la prospective, c'est se poser les questions qui concernent chacune de ces 3 flèches, en se disant, est-ce que ce qu'on fait, on ne pourrait pas le faire différemment, etc. Et donc, je vous propose ici un petit tableau qui permet de rendre compte des différents éléments qui concernent ces 3 flèches, et puis tout ce qui est de l'ordre des adaptations aux situations et des adaptations aux outils. Et voilà des questions qui peuvent permettre de se projeter dans un avenir en se disant, bon, ce qu'on fait actuellement n'est pas complètement satisfaisant et probablement qu'on pourrait imaginer autre chose à partir d'un questionnement de ce type. Et enfin, dernier niveau, accompagner l'appropriation individuelle et ou collective. Donc, j'ai marqué viser la zone proximale de développement. Hein, en psychologie du développement, on emprunte ça à Vygotsky. C'est-à-dire cette idée que il ne faut pas placer les gens qui ont à apprendre des choses dans la situation de se trouver dans un changement tel qu'il n'ait aucun moyen de s'adapter. Et il ne faut pas non plus les placer dans une situation où ils n'ont rien à faire en termes d'adaptation. Mais toujours travailler sur cette zone intermédiaire où tout seuls, ils ne sont pas capables de faire, mais où accompagnés, ils sont capables de faire. Proposer un tutorat adapté, favoriser l'équilibration, favoriser l'instrumentation, c'est-à-dire la transformation des schèmes en fonction des outils qu'on utilise. Exemple, la structuration du travail des conseillers, la structuration de la pédagogie des enseignants, etc. Donc on a bien tous ces aspects appropriation, mais ça peut viser évidemment les personnels administratifs ou d'autres acteurs que je n'évoque pas ici. Pour ce faire, on peut utiliser un troisième modèle qui est celui qui est présenté ici, qui consiste à considérer que les compétences sont décrites ici, hein, avec les invariants opératoires, les inférences, les règles d'action, les anticipations, les artefacts et les boucles de régulation, et considérer qu'un tutorat, c'est à la fois une activité de compréhension de ce que sont ces compétences et une activité d'action directe ou indirecte sur ces compétences. Et évidemment, à partir de là, on peut assez facilement se fixer des objectifs pédagogiques. Par exemple, celui qui consiste à demander à des gens de réaliser une activité, hein, c'est-à-dire mettre en œuvre une compétence pour traiter une tâche, en le faisant à travers des artefacts de nature différente. Le fait de changer d'artefact amène des changements dans l'activité qui peuvent être source d'apprentissage. De la même manière, on peut traiter la même tâche dans différentes situations. Et donc, on peut se fixer comme objectif pédagogique de traiter la même tâche ou de demander aux gens de traiter la même tâche dans des situations de nature complètement différente. On peut essayer d'identifier les circonstances à prendre en compte pour mobiliser telle ou telle activité. On peut identifier des conceptualisations utiles à l'activité. Formaliser les résultats attendus, utiliser différentes façons de réaliser la même tâche, etc. Fournir des feedbacks. Bref, on a sur un modèle de ce type plein de possibilités pour fixer des objectifs pédagogiques et accompagner des activités pour faire en sorte que les gens qui conduisent ces activités apprennent. C'est-à-dire qu'ils régulent tout simplement leur activité. Alors, en conclusion, on peut dire que je vais tout afficher. On peut dire qu'on a deux objectifs si on veut construire une compétence collective à l'université, former autrement au-delà d'une transmission de savoir et manager autrement les compétences individuelles et collectives. Hein, on voit bien à quoi ça correspond en termes d'approche programme et par compétences et d'alignement pédagogique et institutionnel. Et puis, on voit bien que les trois modèles que j'ai présentés sont des modèles opérationnalisables pour le faire. Et si on va sur un plan beaucoup plus général, et il me semble qu'il est utile de le faire, notamment lorsqu'il s'agit d'enrôler les gens sur un projet commun, et ça va certainement intéresser Didier, puis il va reconnaître un certain nombre de choses que j'ai pu dire déjà, c'est inscrire ça dans un cadre beaucoup plus général qui est celui-ci, c'est-à-dire se dire que former autrement, au-delà de la transmission des savoirs et manager autrement les compétences individuelles et collectives, c'est d'une part développer de nouvelles compétences et changer l'organisation des activités humaines, et peut-être parce que ces deux objectifs-là sont extrêmement importants dans une perspective de développement durable. Et en même temps, si je pousse plus loin encore, je peux dire qu'on est sur la base d'un projet qui vise tout simplement à articuler ontogenèse, sociogenèse et phylogenèse, parce que la question du développement durable, évidemment, touche à des questions phylogénétiques. Est-ce qu'on peut continuer à vivre sur cette planète encore pendant longtemps ? Voilà.